Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Nous sommes le samedi 24 mai 2025, il est 13h, vous écoutez Radio SBS et votre programme en français. Bonjour messieurs, dames, je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble et comme tous les samedis, on commence avec la rétrospective. La rétrospective du jour, messieurs, dames, on remonte 181 ans en arrière au 24 mai 1844. Nous allons explorer cette histoire fascinante, celle du code Morse, un système de communication qui a profondément changé la façon dont nous échangeons des informations aujourd'hui. On l'a dit, c'était le 24 mai 1844, Samuel Morse envoie le premier télégramme de l'histoire. L'influence du Morse se fait encore sentir aujourd'hui, même si nous avons à notre disposition des technologies de communication, bien sûr, beaucoup plus avancées. Partons à la découverte de cette fascinante révolution, c'est avec François Vantôme.
Bonjour à tous. On a tous une vague idée de ce qu'est le code Morse, mais cette invention qui a révolutionné les moyens de communication porte le nom de son inventeur, Samuel Morse. Né le 27 avril 1791 à Charleston, Massachusetts, il grandit dans une famille qui valorisait l'éducation. Son père, un ministre, lui inculque un sens aigu des valeurs, tandis que sa mère l'encourage à développer ses capacités artistiques. Très tôt, il montre un intérêt pour l'art et la peinture. À l'âge de 14 ans, il entre à l'université de Yale, où il se révèle être un élève brillant, mais il reste également passionné par les arts. Après avoir terminé ses études, Morse se tourne vers la peinture et se fait connaître en tant qu'artiste, notamment par ses portraits. Ses œuvres sont exposées dans différentes galeries, mais la carrière d'artiste ne lui permet pas de vivre pleinement de son talent. Il continue donc d'explorer d'autres centres d'intérêt, tels que la science. Dans les années 1820, Morse développe un intérêt pour les nouvelles technologies, en particulier l'électricité. Sa vie prend un tournant déterminant en 1825, lorsqu'il part en voyage en Europe. Au cours de ce voyage, il se passionne pour la découverte de nouvelles inventions et technologies, notamment le télégraphe. À son retour aux États-Unis, il est convaincu de la nécessité d'améliorer les méthodes de communication, en particulier sur de longues distances, ce qui l'amène à envisager la création d'un système de communication électrique. Avec l'aide de son confrère Alfred Weil, Morse élabore un système de codage pouvant transformer des lettres et des chiffres en impulsions électriques. C'est ici qu'il conçoit le code Morse, un alphabet composé de signaux courts, appelés points, et de signaux longs, appelés traits. Le code Morse est conçu pour être simple et efficace. Chaque lettre de l'alphabet ainsi que chaque chiffre a sa propre combinaison unique de points et de traits, ce qui permet une transmission rapide des messages. Par exemple, la lettre S est représentée par 3 points, tandis que la lettre B est un trait suivi de 3 points. Maintenant, nous pouvons, par exemple, écrire SBS en Morse. Imaginons la scène, c'est le 24 mai 1844 à Washington, D.C. Samuel Morse se tient devant un appareil de télégraphe, impatient de prouver l'efficacité de sa création. Ce jour-là, il envoie le premier télégramme de l'histoire, un test qui consistait à transmettre la phrase « What hath God wrote ?» que l'on peut traduire par « Que nous a donné Dieu ?» en code Morse. « Cette phrase, tirée de la Bible, évoquait la capacité humaine à créer des merveilles. Et on peut dire que ce message était particulièrement approprié. Le télégramme a été reçu à Baltimore par son assistant, Alfred Vail. Cette simplicité a permis aux opérateurs de télégraphe de transmettre des informations en quelques minutes. Une véritable prouesse à une époque où les courriers mettaient des jours, parfois des semaines, à parcourir les distances. Les conséquences du code Morse sur l'histoire sont énormes. Il a non seulement facilité la communication entre les grandes villes, mais a également grandement contribué au développement économique. Le code Morse a également joué un rôle crucial dans le domaine militaire. Pendant la guerre de sécession aux États-Unis, il a été utilisé pour envoyer des ordres militaires et des informations stratégiques rapidement. Les commandants pouvaient coordonner leurs mouvements et réagir plus rapidement aux événements sur le terrain, ce qui a souvent changé le cours des batailles. Le code Morse a ainsi été un outil indispensable pour de nombreuses forces armées à travers le monde. En 1866, il réussit à établir la première connexion transatlantique en utilisant le code Morse, consolidant ainsi son statut d'innovateur clé dans le domaine de la communication. Samuel Morse est décédé le 2 avril 1872 à New York, mais son influence perdure et son nom demeurera jamais gravé dans l'histoire des télécommunications. Au-delà de son application militaire et commerciale, le code Morse a aussi été une véritable bouée de sauvetage dans des situations d'urgence. Le signal de détresse SOS, choisi pour sa simplicité, est représenté en code Morse par la combinaison suivante. 3 points, 3 traits, 3 points. Ce code a été adopté en 1905 en tant que signal universel. Par rétroacronomie, on lui attribue la signification « Save our souls », « Sauver nos âmes ». Le code Morse a également eu un impact indéniable sur les transmissions sans fil. Avec l'arrivée des téléphones et plus récemment d'Internet, l'utilisation du code Morse a naturellement diminué. Mais l'apprendre peut s'avérer utile dans des situations d'urgence où des moyens de communication classiques peuvent faire défaut. Bon week-end.
Finalement, tu vois, j'ai construit ma vie. Et le vide est grand, les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé, j'ai bien grandi. De toi, j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis.
Voilà, c'était la chanson « Maman » signée Louane, chanson avec laquelle la jeune chanteuse a représenté la France à l'Eurovision. Mais voilà, malheureusement, elle est arrivée 7e. Restez sur SBS French, messieurs, dames, on marque une très courte pause et on se retrouve avec l'interview de Chris Talentir. C'est le nouveau président de la fondation Mundabidi Trail et il promeut le cyclotourisme dans l'état du Western Australia.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Nous avons le plaisir d'avoir sur les ondes de Radio SBS Chris Talentire. Bonjour à vous, Chris.
Bonjour, Jean-Noël.
Et vous êtes le nouveau président de la fondation Mundabidi Trail. Je dois signaler aussi que vous avez quitté la vie politique récemment. Vous étiez membre du Parti travailliste, député travailliste au Parlement d'Australie-Occidentale et aussi ancien directeur du Conseil de conservation en Australie-Occidentale. Et maintenant, vous avez un nouveau rôle depuis votre départ de la vie politique. Vous êtes, comme je viens de le dire, président de cette fondation. Expliquez-nous, Chris, ce nouveau rôle.
Oui, Jean-Noël, je suis ravi d'avoir ce nouvel rôle après une carrière politique. Donc, la fondation se charge de promouvoir et de maintenir le chemin, comme vous avez dit, le Mundi Beatty Trail. Donc, c'est un chemin de 1060 kilomètres entre Perth, Mundaring, en fait, dans les hauteurs de Perth, jusqu'à Albany, dans le sud, sur la côte sud. Et c'est un chemin de 1060 kilomètres qui passe entièrement par les forêts, par les bois, par les forêts de Jarrah, de Cary, et puis sur la côte sud aussi, donc c'est vraiment très spectaculaire. Et tout ça, c'est sans voiture. On est complètement à la liberté des pistes qui sont de gravier, mais très, très facile pour pédaler. Il y a des petites étapes où ça devient un peu plus difficile quand même, mais pour la plupart, c'est vraiment quelque chose que n'importe qui aime bien rouler sur vélo peut faire en toute tranquillité. Et on peut faire ça dans les petites étapes. C'est pas du tout obligatoire de faire dans un coup les 1060 kilomètres. Non, on peut faire un petit morceau. On peut sélectionner des étapes. On peut faire ça en famille. On peut faire ça même si on n'a pas pris un vélo, rouler en vélo depuis une trentaine d'années. On peut toujours voir quelque chose qui marche bien pour quelqu'un pour redébuter sur le vélo.
Et donc, on peut faire ce parcours en plusieurs étapes comme le Tour de France.
On peut faire ça en étapes. Et entre les étapes sont un peu coupées par les gîtes. Les gîtes qui sont bien pour passer une nuit, ou bien on peut dormir dans les villes qui sont sur les chemins aussi. Il y a des villes qui sont là avec soit les Airbnb, ou il y a des autres options aussi. Donc, il y a l'accommodation. Les gîtes sont assez sommaires, un petit peu basiques. Il y a de l'eau, mais à part ça, et c'est de l'eau de pluie, donc il faut un petit système pour filtrer. C'est quand même très, très rafraîchissant d'être près de la nature, en train de faire son progrès, et on peut se naviguer avec les petits panneaux qui sont sur le chemin. Oui. Et on peut aussi utiliser une app, le Mundi Beatty app, qui est formidable. Et on n'a pas besoin d'être connecté au téléphone pour avoir l'app. Tout ça, c'est fait par le GPS qui est sur le téléphone, mais n'est pas forcément techniquement connecté. Donc ça, tout ça, ça marche, la navigation et tout, ça marche vraiment très bien.
Et le Mundi Beatty Foundation existe depuis combien de temps?
Ça existe, je pense, depuis une vingtaine d'années. Ça commençait pas avec l'entière 1000 kilomètres, mais 700 kilomètres. Et maintenant, on a vraiment pris toute la distance entre Mundaring et Albany.
Et donc, le but, c'est de promouvoir le cyclotourisme, c'est ça?
Tout à fait. Le cyclotourisme sur gravier. Et pour reparler un petit peu des pistes, c'est un peu comme en ski. On a des pistes qui sont marquées vertes, qui sont très faciles. Ouais. Bleu, c'est un peu plus difficile. Pour la plupart, le Mundi Beatty, c'est plutôt vert. C'est vert. Il y a des moments où on a des petites épingles à cheveux. Quand on descend vers une vallée, par exemple, là, il faut une bonne assise. Donc, la chose, je dirais, la principale pour le vélo, pour faire le chemin, il ne faut pas faire avec un vélo de route, mais un vélo qui vous donne une bonne assise. Donc, avec les pneus qui ont une épaisseur de 40 mm, ouais, et avec pas trop de pression dans les pneus, comme ça, on a une bonne assise et on peut rouler tranquillement. Mais c'est pas obligatoire d'avoir une vélo VTT. On n'a pas besoin d'être un fan de VTT. Mais bien sûr, les VTT sont tout à fait commodes pour faire le Mundi Beatty aussi.
Et vous avez d'autres conseils, Chris, pour connaître ces expériences exceptionnelles sur ce sentier, sur cette route?
Oui, absolument. Je pense que le principal, c'est de faire un peu de recherche avant qu'on se lance dedans.
Oui.
Et pour ça, il y a les pages Facebook qui sont vraiment très bien. Moi, je suis un peu sceptique pour tout ce qu'il y a de Facebook. Mais les communautés, Munda Biddy Trail Community, Munda Biddy Business Directory, Munda Biddy E-Bike aussi, parce qu'on peut faire ça avec une voiture électrique, une vélo électrique. Ces pages Facebook sont vraiment excellentes, très bien modérées, une bonne ambiance de soutien et de conseils très, très raisonnables. Donc, si quelqu'un veut savoir plus, peut toujours aller sur notre page web, mandabidi.org. .au et prendre plus de conseils là, mais ces pages Facebook sont excellentes aussi et beaucoup plus de détails sont là. Mais oui, je veux bien sûr juste donner un petit avant-goût ouais. aux auditeurs de ce plaisir de rouler en vélo dans la nature et de savoir que c'est vraiment une aventure de toute beauté. Et je pense que c'est une vision australienne de ça, ce qu'on voit un peu partout dans le monde maintenant. C'est-à-dire le tourisme, les vacances, qui sont plutôt les vacances actives et en bonne santé. On voit maintenant que soit à pied, soit en vélo, ou bien par kayak, les gens aiment bien prendre les chemins, les sentiers, aiment bien c'est d'avoir une bout, mais de prendre ça à un rythme qui les convient, je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Et du reste, l'année prochaine, en octobre 2026, Perth va avoir un congrès international pour les World Trails Conference, donc le congrès mondial des trails.
Oui.
La fois précédente, c'était à Ottawa, au Canada, et avant ça, c'était à Santiago de Compostela, en Espagne. Et beaucoup de monde connaît ce chemin, ont entendu parler de ce chemin en Espagne, Santiago de Compostela. Et je pense que dans le temps, pour nous, le Mont de Biddy peut devenir un peu notre Santiago de Compostela. Façon de passer ses vacances très, très agréable et très enrichissant aussi.
Autre message que vous aimeriez lancer, Chris, concernant ce Munda Biddy Trail, je pense quand on fait le parcours de Mundaring jusqu'à Albany et le sens inverse, quel est le plus gros challenge pour vous, selon vous, pour ce trajet?
Ah oui, c'est sûr, mais comme je disais tout à l'heure, on peut sélectionner les étapes un peu plus convenable à ce qu'on aime faire. Mais moi-même, j'ai fait dans les deux sens,
ouais.
Et je dois dire, je pense que j'ai préféré, je ne sais pas pourquoi, du reste, mais je pense que j'ai préféré faire Albany-Mundaring, donc de sud au nord. Les deux sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Et même, moi, j'ai fait en janvier, donc c'est un peu déconseillé en janvier à cause de chaleur, mais j'avais de la chance qu'il n'y avait pas de feu et il n'y avait pas vraiment les chocs de chaleur. Et parce qu'on est dans les forêts, on a l'ombre pas mal, donc c'était faisable. Mais pour la plupart, les gens font le Mont de Biddy dans les mois de avril, mai, juin, juillet, août, c'est parfois un peu pluvieuse, mais septembre, octobre sont super aussi.
Donc l'automne, l'hiver et le printemps sont les saisons exceptionnelles.
Oui, absolument.
Et Chris, j'ai mentionné au début que vous avez quitté la vie politique récemment. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est difficile de s'adapter, d'avoir une vie après la vie politique?
Je me suis retiré du Parlement d'Australie-Occidentale aux élections. Pas les élections fédérales qu'on vient d'avoir, mais en Australie-Occidentale, c'était le 8 mars. Donc j'ai pris ma retraite et je me lance dans les autres projets que j'aime bien, et comme le monde de Bidi. Donc je vois beaucoup de choses que je peux faire. Bien sûr, c'est des choses plutôt au titre volontaire, mais avec l'expérience que j'ai pu avoir après 16 ans au Parlement d'Australie-Occidentale, je suis ravi de continuer de faire des choses intéressantes. Et je regarde un peu comment ça se passe, et bien sûr, on est assez frappé par le succès du gouvernement d'Anthony Albanese avec les élections fédérales, et je félicite mes anciens collègues fédérales. Et aussi, je vois ce que le gouvernement Cook a fait, et de temps en temps, je donne les petits conseils par texto aux anciens collègues. Donc, je suis un peu éloigné, mais je regarde quand même.
Crystal Antaya, merci infiniment d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS et bonne continuation concernant le Munda Billy Trail Foundation.
Merci beaucoup, Jean-Noël, et bravo pour tout ce que vous faites aussi avec votre émission. C'est formidable. Merci.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
J'arrive au Saint-Jean. Le cœur plein d'allégresse, et je commande un petit noir sur fond blanc. Ne pas voir en arrière, toujours viser devant, oublier le présent. Oh, comme
Paris sous la neige, interprété par Dorothée Rascle. On va faire une rencontre à présent, Marine Grangier du Petit Théâtre de Sydney. Elle nous parle de la nouvelle pièce de théâtre, Le Prénom. Vous connaissez sûrement cette pièce de théâtre extrêmement célèbre. Eh bien, c'est la pièce qu'elle dirige. C'est un nouveau spectacle présenté du 27 au 31 mai à Sydney.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, le plaisir d'avoir Marine Grangier. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Et vous êtes du Petit Théâtre de Sydney qui présente Le Prénom à la fin du mois de mai. C'est au Pacte Theatre à Erskineville, à Sydney. Marine, peut-être parlez-nous de cette pièce. Je sais que vous dirigez cette pièce, vous êtes la metteuse en scène. Racontez-nous ce spectacle basé sur le film du même nom.
Oui, tout à fait. Donc moi, je fais partie du Petit Théâtre de Sydney depuis 9 ans, et l'association a 10 ans cette année, donc un gros milestone pour nous, et on s'est dit, pour marquer 10 ans, il faut mettre une pièce en scène que les Français adorent et que les Australiens adoreraient aussi, c'est juste qu'ils la connaissent pas encore. Et en fait, on a choisi Le Prénom, donc que beaucoup de Français doivent connaître pour le film, mais qui est en fait aussi une pièce de théâtre, qui n'est pas étonnant parce que quand on connaît le film, c'est un huis clos qui se passe dans une seule pièce, donc très facile à mettre en scène au théâtre. Et voilà, c'est un film culte que beaucoup de Français connaissent et ont adoré et regardent très souvent. Et on a pensé que c'était un super choix pour un public australien parce que ça a vraiment plein d'éléments de la culture française, au sens où les dîners à la française sont très connus, et on va pas se mentir, les petites disputes entre Français sont aussi on est connu pour ça, on va dire, et il y a plein de références aussi musicales, cinématographiques, etc., et historiques dans la pièce, donc on pensait que ce serait parfait pour nos deux audiences qui sont les Français et les Australiens.
Et donc, peut-on parler des personnages, les interprètes sur scène? Il y en a combien?
Alors, donc, c'est une pièce avec cinq personnages, ce qui est aussi pratique parce que en termes de répétition, comme nous sommes tous des amateurs, on a tous notre vie à côté, donc d'avoir cinq acteurs, c'est pratique pour trouver des jours de répétition pratiques pour tout le monde. Et voilà, donc ce sont trois hommes et deux femmes. Il y a deux couples et une dilettante, un homme qui n'est pas en couple dans la pièce, mais on va apprendre très vite pourquoi. Donc voilà, un couple, deux couples parisiens et un cinquième qui est aussi parisien mais d'origine du sud, il me semble. Donc des gens qui ont de fortes opinions et qui n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent.
Et donc j'imagine que le spectacle dure assez long.
On a coupé la pièce. On a coupé parce que donc le film doit faire à peu près 2 heures, je pense. Et en fait, il y a pas mal de... Autant le film a été adapté au sens où tout ne se passe pas uniquement dans la même pièce. C'est-à-dire qu'il y a un peu des flashbacks. On voit aussi la mère qui est un personnage qui n'est pas présent dans la pièce. Donc il y a des personnages qui ont été rajoutés dans le film qui n'existent pas dans la pièce. Et donc en fait nous on s'est focalisé donc sur le texte de la pièce qui est juste les 5 personnages, mais on a coupé quelques parties histoire que ce soit plus vivant, et parce qu'il y a beaucoup de débats philosophiques et culturels dans cette pièce. Donc on a gardé vraiment l'essence de ce débat très à la française, très philosophique, mais on a coupé histoire que ce soit pas trop statique. Donc je pense que la pièce en tout doit faire 1h20.
D'accord. Et que diriez-vous aux gens qui nous écoutent pour qu'ils viennent voir le spectacle?
Alors, déjà, nous avons une distribution incroyable. Les cinq acteurs qui jouent les cinq personnages sont parfaits pour leur rôle. C'est très, très rare d'avoir un casting aussi simple. Quand on a su quelle pièce on allait faire, j'ai tout de suite su quels acteurs on allait mettre dans quel rôle. Ils sont faits pour ces rôles, donc... Ça colle super bien en termes de distribution. Et puis la pièce est en elle-même hilarante. Enfin, comme n'importe quel Français qui a vu le film ou la pièce peut vous dire, il y a des répliques incroyables. Les personnages sont tous très très différents. Il y a des révélations qui sortent de nulle part. Enfin, c'est sûr qu'on s'ennuie pas, comme dans n'importe quel dîner à la française.
Et quand auront lieu les spectacles et où?
Alors, donc, c'est au Pact Theatre à Erskineville, juste à côté de la station de train qui est St. Peter's, il me semble. Et ça commence le 27 mai jusqu'au 31. Donc, on fait uniquement 5 représentations. Ouais. Ça va passer très, très vite. Donc voilà, on recommande aux gens de prendre leur place assez tôt, parce que ce qui se passe généralement, c'est que les gens viennent et puis en fait le bouche à oreille fonctionne, et puis d'ici à ce que le bouche à oreille fonctionne, en fait le show est fini.
Et puis c'est sold out. Recommande...
Ouais, exactement. Les deux dernières représentations qui vont du coup être un vendredi et un samedi sont toujours sold out. Donc voilà, on recommande aux gens de réserver assez tôt pour ne pas être déçus.
Est-ce qu'il y a des matinées?
Non, on ne fait pas de matinée malheureusement. On fait uniquement, comme c'est une pièce, vous allez voir, qui est très intense. Il y a énormément il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'accessoires. Pour les acteurs, faire deux représentations le même jour, c'est très très dur. Et du coup, on voulait s'assurer que chaque représentation, ils soient au top de leur forme. Du coup, on s'est dit une représentation par jour, c'est plus sûr.
Marine, on profite de l'occasion pour peut-être parler de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a emmené au théâtre, ici et ailleurs?
Alors moi, je fais du théâtre depuis que j'ai environ 10 ans. Donc j'ai commencé en France. J'ai fait plein de représentations, 8 femmes, des adaptations d'Agatha Christie, du Sartre. Moi, j'ai toujours adoré le théâtre en tant qu'actrice. Et après, donc, je suis arrivée en Australie il y a 13 ans et j'ai découvert donc le petit théâtre il y a 9 ans par une amie avec qui je travaillais à La Durée, donc la French Connection au bout du monde. Et voilà, et depuis 9 ans, du coup, je fais partie du petit théâtre. J'ai commencé à mettre en scène il y a peut-être 4-5 ans. Et la beauté du petit théâtre, c'est que voilà, comme on est tous des amateurs, et en fait, tout le monde peut s'essayer à la comédie, à la mise en scène. On fait généralement 2 pièces par année, une pièce entière, où là, on fait vraiment un casting, on choisit les acteurs, etc. Et puis, une autre pièce où on prend plus tout le monde et c'est plus des petites scènes où chacun peut un peu s'essayer au théâtre. Et donc voilà, donc c'est la première fois que je mets en scène une pièce entière et je suis ravie que ce soit Le Prénom parce que c'est tellement une joie de pouvoir diriger les acteurs avec un texte qui est aussi magnifique.
Et vous pensez déjà à la prochaine pièce ?
Ah oui, on a déjà des plans pour la pièce qui sera en novembre. Qui a priori sera une pièce qui s'appelle Les héros de mon enfance, qui est en fait une pièce qui réimagine les héros des contes de fées comme s'ils étaient contemporains. Donc voilà, ce sera sans doute en novembre, un peu plus tard.
Autre chose que vous aimeriez ajouter sur le petit théâtre de Sydney, peut-être une invitation aux gens qui adorent le théâtre et aimeraient rejoindre la troupe.
Oui, absolument. Si vous aimez le théâtre et que vous aimez le français, on est toujours à la recherche de membres. Donc que ce soit sur scène, derrière la scène, on a aussi comme on traduit toutes nos pièces puisqu'on a des sous-titres. Beaucoup de gens se demandent toujours comment le théâtre peut fonctionner avec des sous-titres. Je vous recommande de venir voir Le Prénom pour voir comment ça marche. Ne vous inquiétez pas si vous parlez pas français. Vous pouvez absolument venir voir nos pièces parce qu'on a des sous-titres pour toutes les pièces et donc voilà, vu qu'on a aussi ces sous-titres, il nous faut des gens qui aident à traduire, qui passent les sous-titres en live pendant la pièce. On a besoin de régisseurs, de gens qui s'occupent des costumes, des décors, etc. Donc si le théâtre vous a toujours intéressé et que vous avez un attrait particulier pour la culture française, n'hésitez pas à nous envoyer un email. On est toujours à la recherche de membres pour participer au prochain spectacle.
Et vous avez aussi un site internet ?
Absolument, oui, le Petit Théâtre Sydney, où vous pouvez voir toutes les pièces qu'on a mis en scène ces 10 dernières années. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. On adore rencontrer de nouvelles personnes et ça met du 109 à l'association, donc on est toujours ravis.
Merci à vous, Marine, d'être intervenue sur les ondes de Radio SBS en français et bonne continuation.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Je m'attendais pas à vivre un tel scandale.
Été 2022, Émilie Marche sur les ondes de Radio SBS. Mesdames et messieurs, nous sommes le 24 mai. On se demande du coup ce qu'il y a comme contenu sur SBS On Demand. Tous les mois sur SBS French, on vous présente les contenus francophones, que ce soit des séries, des documentaires ou bien des films, disponibles gratuitement sur la plateforme. Première partie de ce qui est disponible au mois de mai, c'est maintenant.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Watson, SBS On Demand. Tous les mois, SBS vous propose une très large sélection de nouveaux films et séries sur sa plateforme de streaming gratuite. Pas toujours facile de s'y retrouver, c'est pourquoi nous vous proposons notre sélection de contenus francophones. « Watson, SBS On Demand, c'est un rendez-vous mensuel avec des synopsis, des interviews, des bandes-annonces de films, séries et même documentaires pour trouver quoi regarder sur SBS On Demand. Alors, que retrouver à partir du mois de mai ? C'est parti ! Cinq films dans notre sélection mensuelle et on commence avec le long-métrage Sidonie au Japon, l'histoire d'une romancière à succès, en panne d'inspiration, en panne également du goût de vivre, qui se rend aux côtés de son éditeur japonais pour la promotion de son livre. Lors de ce voyage initiatique, elle se confronte au passé, notamment au fantôme de son mari, dont elle n'a jamais vraiment fait le deuil.
What's your reason for your trip?
They are republishing my first book.
Are you a writer?
Yes and no. Vous travaillez avec mon éditeur ?
Je suis votre éditeur.
Ah. Je le fais mal, c'est ça ?
No one can open the windows. That's normal for safety reasons.
Safety ?
Résonnerait votre reconnaissance ?
Vous ne serez jamais seul.
Pourquoi hésiter avant d'accepter votre invitation ? C'est presque irréel pour moi d'être ici. Vous avez des belles mains.
I'm telling you, the window is open.
That's impossible.
Qui êtes-vous?
Au Japon, ils vivent partout autour de nous.
Antoine, mais c'est vraiment toi.
Sidonie.
Vous croyez aux fantômes? Pourquoi tu es revenu?
Je ne suis pas revenu. Je ne suis jamais parti, Sidonie.
L'écriture, c'est ce qui reste quand on se retrouve sans rien. Je sais pas ce qui m'arrive.
Ne pleurez pas, c'est comme ça.
Je suis heureuse de vous connaître.
Moi aussi. Au Japon, nous gardons nos sentiments pour nous.
J'avais peur, je crois, de l'inconnu.
Alors, sourire.
Sidonie au Japon, c'est un film doux et poétique, troisième long métrage d'Élise Girard. Découvrez également le film Le Paradis, The Lost Boys en anglais, l'histoire de Joe, 17 ans, qui est sur le point de sortir d'un centre fermé pour mineurs délinquants, mais l'arrivée d'un nouveau jeune, William, va remettre en question son désir de liberté.
Ton audience est dans 3 semaines, Joe. T'es pas content de sortir ?
Si.
T'es sur un fil. Soit tu te redresses tout de suite, soit tu tombes.
1, 2, 3.
Il est arrivé quand ?
Hier soir. Il a planté un mec.
Pourquoi t'as autant de tatouages ? Pourquoi t'en as aucun ?
C'est pas ici que vous allez pouvoir vivre ça. Dehors, ouais, mais... pas ici.
J'ai rien à perdre. Parce que j'ai jamais rien eu. Je demande pas grand chose. Juste pas me sentir à l'écart. Juste du feu. Un regard.
On va pas s'en sortir en fait.
Tout ce que vous savez faire, c'est prendre des notes sur comment on mange, comment on boit, comment on dort, comment on vit, comment on est. Putain, mais même l'ennui, vous nous regardez quand on dort.
Tu pars con.
Flamme dehors, le feu dedans, je brûle de l'intérieur, je me sens vivant. Pouille ou parasite, sauvageon. Et c'est trop bon, mon gars.
Pour son tout premier long métrage, Xénograton aborde 2 sujets sensibles, la délinquance et l'homosexualité. Il veut normaliser la tolérance, car au-delà d'un récit d'apprentissage, Xénograton veut également pointer du doigt une prise en charge plus punitive que restauratrice, qui ne se montre pas toujours efficace. Si l'histoire d'amour entre les deux personnages est au premier plan du film, eh bien c'est vraiment le système institutionnel auquel s'attaque ici le réalisateur, qui souhaite faire passer un message fort. Il disait d'ailleurs dans une interview de 2023... Je souhaite démontrer que les mécanismes qui mènent à la délinquance sont avant tout liés à un système, à un racisme systémique, à la précarité et à énormément de choses. Cela ne relève pas uniquement de la responsabilité individuelle. Voilà, messieurs, dames, pour notre sélection des sorties cinématographiques du mois de mai sur SBS On Demand. Mais bien sûr, certains contenus des mois passés sont toujours disponibles. Si vous ne l'avez pas déjà fait, foncez retrouver la sélection du mois dernier en avril sur SBS On Demand. C'est toujours disponible sur notre site internet ainsi que sur toutes les plateformes. Et les films et séries dont on y parle, tout est accessible gratuitement, on le répète, gratuitement sur la plateforme SBS On Demand et ce pendant encore plusieurs mois. Vous avez le temps, mais il y a tellement de contenu, on voudrait ne pas en rater une miette. Alors régalez-vous, messieurs, dames. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau point sur les contenus francophones à retrouver sur SBS On Demand. Bon visionnage et à très bientôt.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/French.
La chanson Chérie, interprétée par Salif Keïta. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est demain, même fréquence, même heure. Et d'ici là, je vous souhaite de passer un très beau samedi. Au revoir, messieurs, dames.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.